Salut, c'est Steven Jambeau de l'Atelier des médias. Alors que j'enregistre cette émission, des troupes russes ont pénétré en Ukraine. C'est une guerre qui est en cours. Mais il y a aussi une guerre informationnelle qui se déroule sous nos yeux, dans les médias et sur les réseaux sociaux. Dans l'Atelier des médias, on s'intéresse très souvent à la fabrique de l'information. Et en ces temps troublés, sans doute plus encore aujourd'hui qu'hier, il nous faut toutes et tous être vigilants aux fausses images et aux fausses informations. Faisons attention à la source de ce que l'on lit. Tenons-nous-en aux médias professionnels et même là, faisons preuve d'esprit critique. Avant de partager ou de repartager quelque chose sur Facebook, Instagram, Twitter ou TikTok, posons-nous des questions pour ne pas ajouter au malheur du monde. Dans l'Atelier des médias, nous serons attentifs au déroulement de ce conflit en Ukraine et à ses conséquences. Nous en reparlerons dans nos prochaines émissions. RFI. Dans cette émission, que vous pouvez écouter à la radio et en podcast, on parle souvent des médias qui se lancent. Cette semaine, je vous invite à découvrir Hors Périph, un média français né il y a un an. Comme son nom l'indique, Hors Périph parle de ce qui se passe en dehors, en l'occurrence hors de Paris, en périphérie. Son objectif est de mettre en valeur, par des reportages vidéo, les initiatives solidaires qui se développent en région parisienne. L'Atelier des médias a rencontré Clément Dechamps, le fondateur d'Hors Périph, qui est également son rédacteur en chef. Alors que d'autres médias en France sont pour tout ou partie consacrés à l'actualité des banlieues, le Bondy Blog, créé en 2005, Street Press, lancé au début des années 2010, la ZEP en 2015, ou encore l'écho des banlieues née en 2017, notre reportrice Nolwenn Autré a commencé par demander à Clément Dechamps en quoi son média est singulier.
Dès le départ, on a pris la décision de prendre l'angle des initiatives positives et solidaires. C'est un peu ça qui le différencie. Les médias que vous avez cités, ils le font aussi, ils le font très bien, mais nous, c'est vraiment notre angle spécial, c'est de s'intéresser aux actions citoyennes et aux initiatives solidaires qui existent en banlieue. Donc l'idée, c'est de dénoncer des réalités sociales qui sont difficiles, mais pas se restreindre à la dénonciation, mais aller plus loin et montrer en fait l'action et la réaction qu'il y a à ces difficultés.
Quelles ont été vos inspirations pour lancer Hors Périph?
Je pense que la première inspiration, c'est le média brut, parce que voilà, c'est, il est omniprésent. Enfin, moi, en tout cas, je regarde beaucoup ce qu'ils font. Et sur la forme, voilà, c'est clair que je me suis beaucoup inspiré de Brut. On pourrait même dire que j'ai copié. Mais après, sur le fond, je m'inspire de tout, d'à peu près tout ce que je regarde, que ce soit les reportages à la télé, même des articles que je lis ou des reportages radio. Mais sur le fond, j'ai pas vraiment d'exemple. Non, j'ai essayé de faire un truc nouveau, quoi.
Dans vos vidéos, Hors Périph semble s'appuyer sur deux piliers. Le journalisme de solutions d'un côté, les gens qui font des choses, qui proposent des solutions pour répondre à des problèmes. Et le journalisme solidaire, mettre en avant des initiatives solidaires utiles. Finalement, Hors Périph, c'est un peu tout ça, du journalisme de solutions et du journalisme solidaire.
Je dirais plus solidaire que de solutions, parce qu'on n'a pas la prétention d'apporter des solutions. L'idée, c'est de montrer des initiatives citoyennes, mais ce n'est pas forcément des solutions à ces problèmes. C'est juste des élans citoyens, des gens qui se mobilisent pour répondre à des problèmes, mais je ne dirais pas que c'est des solutions.
Revenons au constat de départ d'Hors Périph. Il y a des médias qui parlent des périphéries, mais souvent avec des angles négatifs. Pourquoi avoir choisi ce créneau de journalisme solidaire? C'est une demande de votre audience de proposer du contenu de journalisme solidaire, ou c'est vous qui avez remarqué ce créneau, si je peux dire ça?
Déjà, je dois dire que tout part quand même de mes propres convictions, de mes valeurs à moi. À la base, vraiment, le cœur du projet, il part d'un respect pour tous ces acteurs et ces actrices du terrain qui font bouger les choses au niveau local. Donc, on parle souvent des pouvoirs publics, on parle souvent du pouvoir économique, privé, mais on oublie souvent la société civile et l'auto-organisation des citoyens. Et moi, c'est ça que j'ai voulu mettre en avant, en fait. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui, à l'échelle de leur quartier, décident de faire bouger les choses, s'organisent, donnent de leur temps, de leur énergie, parfois de leur argent, pour monter des projets, venir en aide aux populations qui sont plus défavorisées, en fait. Et c'est ces gens-là, je pense, donc le monde associatif, mais parfois c'est des citoyens qui n'ont même pas d'association, mais qui organisent des choses. Et c'est ces gens-là qui cimentent vraiment le lien social et qui permettent de favoriser le vivre ensemble et de venir en aide à ces populations-là.
Est-ce que vous pensez que le journalisme solidaire, ça peut être un moyen de recréer la confiance entre les citoyens et les médias?
Alors, recréer la confiance, je ne sais pas, c'est un grand concept. nous, de notre côté, on essaye d'avoir la confiance des gens qui nous regardent, d'être transparent, d'être vrai, en fait, d'être réel, de montrer la vraie vie. Effectivement, même dans les montages et tout, dans nos reportages, on essaye de laisser transparaître le côté humain. On laisse aussi nos questions, parfois. Montrer qu'on n'est pas, une entité extérieure qui vient filmer, mais en fait, on fait partie d'un tout. Et cette proximité-là qu'on essaie de créer, je pense que ça fait que les gens ont confiance en nous et continuent à regarder nos reportages.
Alors, vous parlez de reportages. Vos reportages, ils sont 100% vidéo. Pourquoi avoir fait ce choix de l'image animée ?
Moi, à la base, je viens de la presse écrite, mais à un moment donné, je suis arrivé au constat que pour toucher des populations jeunes et pour entrer dans les habitudes des gens, je me suis dit que c'est avec la vidéo que le projet aurait plus d'impact. Et puis même après, à titre personnel, j'ai beaucoup plus de plaisir à faire du montage, à filmer des images. Et du coup, je me suis jeté en plein dedans. Et aujourd'hui, voilà, vraiment, je prends plus de plaisir à faire une vidéo qu'à écrire un article. Et donc, ces deux facteurs ont fait que je me suis focus sur la vidéo. Mais maintenant, on commence à alimenter le média avec des nouveaux contenus. Et donc, on propose des reportages photos. On va bientôt faire des articles écrits aussi pour une newsletter. Donc voilà, on évolue. Pourquoi le ciel est bleu ? Pourquoi l'on vit mieux à deux ?
Je pense que déjà dans le monde du métier, quasiment tout est dit. Aide-soignante. Donc on est là pour aider les gens et les soigner. Que ça soit du confort physique ou même un réconfort psychologique. Il y a des gens qui sont vraiment seuls chez eux. Hein. On est les seules personnes qui passent les voir. C'est-à-dire s'il n'y a pas l'infirmière, l'aide-soignante ou l'aide ménagère qui vient porter le repas, et ils sont tout seuls toute la journée.
Je vous avais proposé de vous accompagner lors d'un reportage pour observer en fait votre manière de travailler, mais vous avez refusé. Pourquoi vous avez refusé ?
J'ai refusé parce que j'ai réalisé que le reportage serait plus fort si j'y allais tout seul. Pourquoi ? Parce que quand vous arrivez sur un terrain et que vous êtes tout seul, vous connaissez personne et vous arrivez pour filmer les gens. En mode « bonjour, j'arrive, je vais passer l'après-midi avec vous pour vous filmer ». Et c'est une position qui n'est pas forcément facile, parce qu'on ne connaît personne, on ne sait pas où se mettre. Et du coup, on a cette espèce de vulnérabilité. Et quand on arrive à gagner la confiance des gens et à dépasser cette position de faiblesse, et ben du coup, peut se créer une confiance et les gens vont se livrer encore plus. Ça peut permettre derrière d'avoir des témoignages plus forts et un reportage plus réel, quoi.
Donc, votre travail, c'est de mettre en lumière les initiatives positives qui répondent à des problèmes rencontrés par les populations qui vivent en banlieue. Quelles difficultés vous pouvez rencontrer en essayant de mettre en avant ces initiatives ?
La première difficulté, mais en même temps, c'est le challenge de tous les jours, c'est de les trouver. C'est de trouver des pépites, comme on dit. Donc, vu qu'on s'appelle hors périph, on cherche des pépites d'or. Donc ça, c'est la première chose, c'est trouver des initiatives intéressantes, originales et surtout se renouveler chaque semaine. Ensuite, la vraie difficulté dans ce travail, c'est d'être régulier, d'être toujours présent. Mais concrètement, sur le terrain, ça se passe toujours bien, en fait. On est toujours bien accueillis. Quand vous arrivez pour mettre en avant une initiative, une association, en général, les gens sont toujours très heureux de vous recevoir. Il faut juste être très transparent sur ses intentions, être clair et honnête. Et à partir de ce moment-là, tout se passe bien. Si vous commencez à jouer double jeu, en fait, les gens ils vont le sentir et ça va mal se passer.
Vous parlez de la difficulté de trouver des sujets. Dernièrement, vous avez réalisé différents reportages, comme par exemple des cours de danse adaptés contre le cancer, qui est sorti le 19 octobre, ou alors des bénévoles pour les soins palliatifs le 4 novembre, ou encore le quotidien des aides-soignantes à domicile le 13 novembre. Ce sont des sujets qui ne sont pas souvent traités dans les médias mainstream. Et comment, justement, vous les trouvez, ces sujets, ces pépites d'or ?
Eh ben, il y a plusieurs façons de trouver les sujets. Il y a déjà Internet. Hein. Internet, c'est une banque. Il y a tout ce qu'il faut. Hein. Il suffit de taper sur Google, de faire bien ses recherches et vous pouvez trouver plein de choses. Mais il n'y a pas que Internet. Il y a aussi le bouche à oreille. En fait, à force de faire des reportages sur le terrain, je rencontre quelqu'un qui me dit « Ah, j'ai ma cousine qui travaille dans un service de soins à domicile. Ça pourrait être intéressant. Si tu veux, je te passe son numéro. » Ou je reçois des messages parfois sur Instagram, j'aime bien votre projet, nous on a une action à Montreuil, est-ce que vous voulez bien venir filmer ? Et en fait, petit à petit, il y a un petit réseau qui commence à se créer, et donc Internet, le bouche à oreille, et les réseaux sociaux. Ouais.
Vous dites sur votre site un reportage vidéo par semaine sur une initiative solidaire qui a marqué l'équipe. La majorité du temps, vos reportages sont tournés dans une association. En vous focalisant sur une association, Vous n'avez pas peur de faire de la communication? Et moi, je me pose la question, à partir de quel moment la limite entre la communication et le journalisme se fait?
C'est une très bonne question. C'est clair que parfois, on pourrait se demander si on ne fait pas juste du journalisme d'association ou de la com pour les assos. Et en fait, je crois que oui. En fait, on fait de la com pour les assos parce que en fait, c'est notre objectif premier, c'est de valoriser les actions solidaires. Alors c'est vrai que peut-être qu'on creuse pas assez parce que même dans les associations, c'est pas parce qu'il y a du bénévolat ou il y a de la solidarité qu'il n'y a pas aussi des travers. Peut-être que on devrait creuser plus pour aussi montrer ces travers-là. La frontière entre communication et journalisme, avec le temps, moi, je m'y intéresse de moins en moins. Aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est que le message passe. C'est que les gens soient touchés par la vidéo et peut-être aient envie de s'engager également, de faire un don à l'association. En fait, le but, c'est de faire rayonner ces projets. Donc, que ce soit de la com ou du journalisme, même moi, le mot journalisme, quelque part, c'est un mot qui m'intéresse de moins en moins. Parce que je raconte des histoires. De toute façon, quand vous faites un reportage, quand vous faites une vidéo ou un article, bah, il y aura toujours votre subjectivité, il y aura toujours une part de communication quelque part. Donc, je m'en détache, en fait. Moi, ce que je fais, c'est du reportage. Je vais sur le terrain et je montre ce qui se passe.
Je suis Myriam François, je suis une journaliste avec la BBC en Angleterre.
Pourquoi vous venez interviewer Shahin Azami aujourd'hui?
Parce que la question des violences policières aujourd'hui en France, c'est une question brûlante, vive, et qu'aujourd'hui, avec la mort de George Floyd aux États-Unis, je pense qu'il y a il y a de plus en plus d'attention à l'international sur ces questions-là. Et moi, en tant que Française, je sais qu'il y a un problème et qu'il faut en parler. Et je sais que Shahin, c'est quelqu'un qui travaille pour essayer de mettre en avant ce qu'il voit, lui, dans son quartier, dans les quartiers en France. Et que ce sont des voix qui ne sont pas entendues, que ce sont des histoires qui ne sont pas mises en avant. Et qu'il est temps de les entendre.
Qu'est-ce que tu penses du fait que la BBC interviewe Shahin Azami aujourd'hui ?
Aujourd'hui, quel regard portez-vous sur le journalisme qui traite de la périphérie ?
J'ai pas la prétention de juger les autres médias ou les autres journalistes. Je fais pas du meilleur journalisme que les autres. Par contre, je dois dire que l'ambiance générale que je ressens dans les grands médias mainstream me plaît pas et m'indigne en fait. Le traitement de l'information, je le trouve biaisé. Et effectivement, quand je regarde les grandes chaînes, je suis déçu. Je suis déçu par l'agenda que ces médias proposent, par la hiérarchisation de l'information, par le choix des sujets. Je trouve que ça ne reflète pas la vie de tous les jours et la société française. Et vu qu'on est dans une société où il y a quand même beaucoup de fractures, beaucoup de divisions, c'est pas facile en ce moment. Souvent, les sujets sont traités de manière superficielle. Parfois, même les médias jettent de l'huile sur le feu. Alors qu'en fait, moi, je le vois tous les jours sur le terrain, et même dans ma vie quotidienne personnelle, les gens vivent ensemble, en fait. Ils sont pas en train de se taper dessus. Par contre, quand on allume la télé, on a l'impression qu'on est tous en guerre les uns contre les autres. Et c'est ça que j'ai voulu casser avec Hors Périf, c'est de montrer toutes les belles choses du quotidien, quoi. Les gens de tous les jours. Après, le défi, c'est de rendre ça intéressant, parce que ça peut être un petit peu banal de montrer une petite dame qui s'engage dans une association le vendredi soir. Bon, bah, c'est pas très sexy, c'est pas très vendeur.
À qui s'adresse votre média, finalement? À qui s'adresse Hors Périph? Aux jeunes des périphéries, aux jeunes des villes, aux moins jeunes?
J'aime pas trop cette question, parce que j'ai du mal. J'ai pas vraiment une cible. Et si je devais vous dire... À qui je voudrais parler? Ben moi, je voudrais parler à la France entière, en fait. Je voudrais que tout le monde voit mes reportages parce que j'ai la conviction qu'ils peuvent intéresser tout le monde. On essaye de faire quelque chose d'universel. Après, dans les faits, déjà, on est sur les réseaux sociaux, donc on va toucher ceux qui sont présents sur les réseaux sociaux. Donc on va dire plus les jeunes, même si ça devient de moins en moins vrai. L'objectif de tout ça, c'est quand même d'avoir de l'impact, de faire bouger les lignes. Et pour l'instant, en fait, on touche principalement des gens qui sont déjà sensibles à la justice sociale. Donc parfois je me dis qu'on enfonce des portes ouvertes et c'est déjà bien, mais c'est vrai que ce serait intéressant d'aller plus loin que ça. Si par exemple, l'autre jour je parlais avec mon pote qui est dans l'équipe Hors Périph et qui me disait si tu pouvais diffuser tes reportages sur CNews ou sur le Figaro, est-ce que tu accepterais? Et il s'y attendait pas, mais moi je lui ai dit bah bien sûr, parce que si je pouvais toucher des gens qui sont à l'opposé, on va dire, de mes valeurs, pour peut-être leur montrer quelque chose de différent, ce serait encore plus intéressant, je trouve.
C'était Clément Dechamp, fondateur et rédacteur en chef d'Or Périph, au micro de Nolwenn Autré. Pour en savoir plus et voir les reportages vidéo de ce média, rendez-vous sur orperif.fr. O-R-P-E-R-I-P-H.fr.
L'atelier des médias.
Vous connaissez Monde Blog, la communauté des blogueuses et blogueurs francophones de RFI. Eh bien, je vous rappelle que le concours pour agrandir la famille Monde Blog est toujours en cours. Vous avez jusqu'au 15 mars pour candidater en nous soumettant un article sur le thème de cette année « Toutes et tous actrices et acteurs du changement » parce que le monde de demain est encore à inventer. Toutes les informations sont sur mondoblog.org. Allez, il est temps d'écouter l'un de ces mondoblogueurs dans Mondoblog Audio, ce moment qui chaque semaine nous fait entendre la voix de nos blogueurs. Cette semaine, alors que les temps sont troubles, il va être question de la dépression, cette envie de rien qui nous envahit, ce mal-être qui nous accable et qu'on a parfois du mal à expliquer. Ce sujet est-il tabou sur le continent africain ? Eh bien, c'est ce que pense Fatim Touré, qui nous parle de dépression depuis le Burkina Faso.
L'Afrique doit regarder la dépression en face. Beaucoup d'Africains décrivent la dépression comme une maladie d'occidental et la tournent en ridicule. La dépression, c'est pour les blancs et les riches, ceux qui n'ont pas de problème et qui se plaignent. Déprimés, en Afrique, ça ne peut pas arriver, voyons. La culture africaine où la place de la collectivité est souvent plus importante que celle de l'individu crée des incompréhensions. On considère la dépression comme un luxe que les Africains ne peuvent pas s'offrir. Les Africains n'ont pas le droit de se laisser aller. Il faut être fort dans l'épreuve et ne pas se lamenter sur son sort. Bref, la dépression est un mal que les Africains veulent ignorer. Les Noirs ne peuvent pas faire de dépression, dit-on, et le sujet reste tabou. Pourtant, l'Organisation mondiale de la santé l'affirme. Tous les pays sont touchés par la dépression. Tous. Le continent africain ne fait pas exception. La dépression peut toucher n'importe qui. Elle est donc aussi africaine. Mais comme personne n'en parle, on croit que ça n'existe pas. Alors que ces problèmes sont bien réels et il est essentiel d'en parler pour avoir une chance d'aller mieux. Les personnes touchées ne s'étendent pas sur le sujet, sur leur sentiment de mal-être, par peur d'être incomprises. Elles craignent d'être stigmatisées. Alors que c'est bien mal connaître la dépression que de l'associer à un signe de faiblesse ou à un manque de courage. Quand quelqu'un se casse la jambe, mettons en doute sa blessure, sa douleur ? Non, on comprend que la personne aille se faire soigner. Quand quelque chose est cassé, il faut le réparer. Eh bien, c'est exactement pareil pour les blessures de l'âme. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Il faut pouvoir le dire. La société africaine doit être plus respectueuse et compréhensive face aux troubles dépressifs. Elle doit être sensible aux signes que sont la fatigue permanente, la tristesse, une perte d'intérêt généralisée, l'envie de rester seule, parfois associée à un sentiment de culpabilité. Cela n'arrive jamais par hasard et il faut en comprendre les raisons. Ce n'est pas facile d'affronter les chocs de la vie. Parfois, celle-ci nous maltraite tant. La dépression touche des milliers d'Africains. Brisons le silence sur la dépression et repensons la santé mentale en Afrique. Il faut former des médecins, pour qu'ils se spécialisent. Les psychologues et les psychiatres sont encore trop peu nombreux sur le continent. Se soucier de santé mentale n'est pas un luxe, c'est un droit humain.
Mondoblog.org.
C'était la mondoblogueuse burkinabé Fatime Touré. Des dizaines de mondoblogs audio comme celui-là, envoyés par nos blogueuses et blogueurs, sont à écouter sur mondoblog.org. Et je me répète, on recrute de nouveaux blogueurs francophones de RFI. Tentez votre chance à notre concours sur mondoblog.org. Enfin, je termine cette émission en signalant que le prix Boukari Konaté de Doniblog, la communauté des blogueurs du Mali, a été remis le week-end dernier. C'est Laya Kounchi-Arama qui a remporté le premier prix en signant un billet original sur le sujet délicat de l'excision au Mali. Félicitations à elle. Et signalons que les deuxième et troisième prix ont également été remportés par des femmes. Un podium 100% féminin, c'est une première dans l'histoire de ce prix qui porte le nom donc de Boukari Konaté, blogueur mort en 2017. Il était membre de Mondoblog. Il était inspiré et inspirant puisqu'il a suscité des vocations dans le blogging au Mali. C'est la fin de cette émission réalisée par Simon De Creuse. Si vous aimez l'Atelier des médias, je vous rappelle que vous pouvez l'écouter en podcast chaque samedi avant même qu'il soit diffusé sur RFI. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict ou encore l'appli Radio France. Sur toutes les plateformes où vous le pouvez, mettez des étoiles au podcast de l'Atelier des médias et postez des commentaires pour que ce programme que vous suivez ait davantage de visibilité et puisse donc être encore plus écouté. Pour me contacter, un mail à atelier@rfi.fr ou un message via Twitter. Je m'appelle Steven Jambeau et je vous retrouverai avec plaisir la semaine prochaine pour un nouvel Atelier des médias.